les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PIT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférences à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée.
Nous sommes aujourd'hui à Nantes, où nous avons le plaisir de rencontrer la poétesse Perrine Le Quérec dans le cadre de sa résidence de création à la Maison de la Poésie à Nantes. Avec elle, nous nous intéresserons notamment au livre « Les mains d'Anna », publié en 2023, et au recueil « Rouge pute et la bête son corps de forêt », publié en 2020. À l'issue de l'entretien, Perrine Le Quérec nous proposera la lecture d'un extrait de ce dernier ouvrage.
Vous nous faites le plaisir de nous accueillir dans cette résidence. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en résidence, ici ou ailleurs? Est-ce que c'est des lieux ou des moments où vous produisez particulièrement?
Oui, c'est vraiment fait pour ça, pour qu'on puisse libérer du temps et passer ce temps de résidence uniquement à réfléchir aux projets en cours. Alors, pas forcément à écrire, mais en tout cas y réfléchir. Là, en l'occurrence, je réfléchis plus que je n'écris, aussi parce que cette résidence à la Maison de la Poésie de Nantes est riche en rencontres, lectures, événements, donc je suis un peu sollicitée à l'extérieur, donc c'est plus difficile d'entrer dans une écriture longue. Il y a des résidences où il y a moins de sollicitations et on peut plus écrire. Donc là, je suis venue avec un projet particulier, qui est un oratorio, que je compose avec un musicien nantais, Ronan Courtier, avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Et donc ça s'appelle Christa. Moi, j'écris le livret. Et le thème de cet oratorio, c'est d'imaginer un monde où, au départ, notre élan, c'était d'imaginer un monde où Dieu avait eu une fille et non un fils. Cette fille s'appellerait donc Christa, et d'imaginer le monde tel qu'il serait si tout avait été passé par cette focale-là. Ça s'est légèrement déplacé, mais ça reste un monde où les plis qui ont été appuyés durant des siècles sont différents. Voilà.
Dans les présentations, puisque j'ai pu vous entendre deux fois à Nantes lors de rencontres, justement, on vous présente comme une archiviste aussi. Vous avez travaillé en tant que recherchiste, on a vu ça sur certaines quatrièmes de couverture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, ou comment vous en êtes venue à la poésie, ou est-ce que c'était une activité que vous aviez toujours eue en parallèle?
Avant de pouvoir vivre de mon écriture, ce qui est assez récent, j'avais donc cet autre travail de recherchiste que j'ai exercé je ne sais pas trop, une vingtaine d'années, disons, et qu'il m'arrive encore d'exercer, disons, une mission par an, parce que j'aime vraiment ce travail. Et c'est une fonction qui croise les capacités à pouvoir trouver des images, donc iconographes, des archives et à les déchiffrer, bien sûr, des sons. Donc je répondais à des demandes spécifiques de télévision, de musée, enfin quiconque avait besoin de recherche, en fait, dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel support. Donc j'étais en permanence dans des bibliothèques ou dans des archives privées, publiques, à synthétiser des domaines de recherche pour des personnes ou des institutions. C'était un boulot vraiment fantastique, ça le reste, pour écrire, puisque on est sans cesse en présence de l'écriture, du passé comme du présent. Et donc, ça permet vraiment d'élargir ses propres champs de recherche, puisque souvent, pendant que je travaillais pour un sujet qui m'avait été commandé, une partie de mon cerveau mettait de côté des éléments que je trouvais et qui me semblaient tout à fait intéressants pour une écriture future. Donc c'est un travail qui est tout à fait équilibré, je trouve, avec celui d'écrivaine. Ça ne m'a pas emmenée vers l'écriture. J'écrivais avant d'exercer ce travail. Ça l'a juste... juste, le mot est faible, ça l'a enrichi. Et ça m'a surtout donné cette habitude de chercher systématiquement, quand j'entreprends l'écriture d'un roman ou d'un recueil de poésie, il y a presque toujours de la recherche. Quoi. C'est vraiment une base de travail et de concentration pour moi.
Et la recherche est préalable au travail de création ? Ce sont deux choses qui se complètent et qui se nourrissent tout au long du processus ?
Il y a différentes façons d'envisager ça. Parfois, comme je l'ai dit, dans une recherche, dans une mission, je trouvais des éléments d'un sujet auquel je n'avais pas pensé, que je mettais de côté. Et si vraiment le sujet continuait à me travailler, alors j'entreprenais des recherches dans l'idée d'écrire un livre. Mais la plupart du temps, j'ai un sujet en tête et à ce moment-là, je commence des recherches. Donc, elles vont vraiment anticiper l'écriture. Elles peuvent souvent durer des années. Et une fois que j'ai que mon idée a pris chair grâce aux recherches, en fait, je passe à l'écriture. Donc, c'est plutôt donc une sont plutôt des recherches préalables et qui vont m'amener à donner corps vraiment au sujet que j'ai envie d'écrire. Parfois aussi dans des recueils comme Feu, ou qui sont plus des répertoires de feu, je cherchais au fil de mon écriture, puisque j'avais besoin d'être nourrie constamment de feu historique, donc ça accompagnait l'écriture.
Et est-ce que tout sujet est bon pour écrire, ou qu'est-ce qui vous amène à un sujet en fait ? Pourquoi chercher là sur ça?
Bon, alors moi j'ai quand même une sorte de d'ornière ou de ligne directrice assez profonde dans tout qui traverse tous mes écrits de prose ou de poésie. J'ai vraiment une attention très particulière aux voix qui sont mises de côté, qui sont vraiment exclues. Mon grand travail d'écriture, c'est de trouver la langue qui va faire entendre ces voix. Donc ça, c'est vraiment ce qui me guide. Et la plupart de mes livres, peut-être à une ou deux exceptions près, c'est ça. Donc le sujet, après, je le rencontre. C'est la plupart du temps, c'est un choc, en fait. Un choc esthétique ou un choc de colère, ou enfin voilà, c'est quelque chose qui va me soulever. Il va y avoir vraiment un soulèvement qui me demande de passer en écriture pour pouvoir continuer à accepter le monde, en fait. Donc je m'arrange avec cette société en prenant mon arme, qui est vraiment le crayon, et en y allant, quoi.
Et à vous lire, on a l'impression que l'archive, ça vous permet aussi, d'un point de vue esthétique, de venir combler le vide, de venir dire ce qui n'a pas été dit, de rendre visible ce qui n'est pas visible.
Oui, ça rejoint...
Est-ce que c'est, oui. Oui, ça devient une esthétique en tant que telle, presque.
Ça rejoint vraiment ce désir de mettre la lumière là où on n'a pas envie de la mettre. Donc effectivement, c'est aller chercher des voix, des témoignages, des images même, qui sont laissées de côté alors qu'elles nourrissent notre histoire. Et donc c'est important pour moi de les amener jusqu'à la reconnaissance, en fait.
Donc ça veut dire donner la parole au silence aussi.
Oui.
Je pense au recueil, en particulier Les mains d'Anna, où on a la sensation que les archives n'étaient pas pauvres, mais enfin étaient limitées, et qu'il a fallu vraiment faire un grand effort de recherchiste là. Enfin.
Oui, c'est presque une quête amoureuse. Hein, c'est vrai, bon, j'aime évidemment tous mes personnages, réels ou fictionnels, je les aime vraiment. Si je m'engage à être près d'eux, près d'elles, et à leur donner corps, il faut pas se décourager. Effectivement, pour Anna Heusch, les archives étaient plus que parcellaires. En tout cas, en langue française, elles étaient quasiment inexistantes. Et donc, il a fallu du temps et aller les chercher assez loin et dans des registres auxquels je ne m'attendais pas pour pouvoir la convoquer et entrer dans une sorte d'intimité avec elle et ainsi pouvoir l'écrire.
Est-ce qu'il y a une part de fiction ?
Il y en a assez peu. Ce qui est fictionné, on va dire, ce qui peut paraître fiction, c'est mes sentiments pour Anna Heusch, mes sentiments pour cette œuvre et pour l'ombre dans laquelle on l'a laissée. Donc là, évidemment, il y a toute ma passion qui va habiter les mots, les phrases, la syntaxe. Ça n'existe pas dans sa biographie réelle. Mais après, les événements ou toutes les dates et les œuvres, tout ça, c'est réel, quoi. C'est sa biographie juste.
Et quand vous travaillez avec des personnages de fiction, comment vous faites cette articulation entre l'archive, la part documentaire et la fiction ?
Par exemple, Les Trois Maisons, qui est un livre qui est dans un environnement tout à fait documenté, puisque c'est le 19e siècle. Les trois maisons sont la maison maternelle, la maison des folles, donc la salpêtrière au 19e avec Charcot, et les maisons closes, les maisons de grande tolérance, comme on appelait ça à Paris, à exactement la même époque. Donc tout là est parfaitement au jour près documenté. Chaque date, chaque costume, tout ce qu'elle mange, tout est documenté. Mais elle s'appelle Jeanne Létang, l'héroïne, elle est fictionnelle. Donc je l'insère dans ce milieu totalement documenté et elle va vivre une vie de fiction puisque sa vie n'a pas existé, mais elle aurait pu être une des patientes de Charcot, elle aurait pu être une des filles des maisons closes, voilà. Donc je la projette dans un environnement très documenté et très précis, mais elle agit là avec toute sa liberté de fiction, en fait.
Et donc c'est pas l'aspect lacunaire de l'archive, mais plutôt ce que l'archive n'arrive pas à dire, que vous avez essayé de scruter.
Mais en fait, les femmes dans les archives, les voix des femmes, les témoignages des femmes sont quasiment inexistants, en fait. L'archive, elle est conservée, c'est les voix d'hommes qu'on entend. Donc aller dans des sujets comme ça, c'est vraiment tenter, oui, de faire entendre ces femmes-là et ces voix-là. Ouais.
Et vous avez parlé au tout début de la question du pli. On a eu l'impression que c'était un motif qui revenait fréquemment dans votre écriture, que ce soit un geste que font les personnages ou même le repli de l'écriture et du vers. Et on se demandait comment vous travaillez justement ce motif-là.
Bon, c'est très intéressant le pli, hein, ce qu'il cache, ce qu'il dévoile. C'est vraiment, j'ai toujours l'impression que l'écriture, elle est dans cette double impact, à savoir on ouvre le pli et apparaît quelque chose qui était caché à la vue et on dédouble comme ça le motif. C'est quelque chose, c'est une figure qui est toujours sur le bord. Elle m'intéresse en ça. J'ai construit tout un livre plié, comme ça, qui s'appelle La Construction. C'est un livre dans son format originel qui mesure 4,20 m sur 1 m et qui est entièrement plié pour arriver à un format d'un livre classique, on va dire. Et c'est le lecteur, en pliant et en dépliant le livre, qui construit l'histoire. Donc je trouve ça particulièrement riche, d'abord parce que selon les plis et les déplis, eh bien, ce sont des textes différents qui vont être mis côte à côte. Donc ça provoque des collisions de narration, de sens qui sont très riches. Et puis voilà, il y a toute une sorte de danse, de chorégraphie du corps qui rentre, du lecteur, de la lectrice, qui rentre vraiment, qui devient partie prenante de la lecture et de la construction du livre. Aussi parce que j'ai l'impression que notre mémoire, elle fonctionne un petit peu comme ça. Elle n'est pas linéaire du début de la journée jusqu'à la fin. Elle va comme ça par à coup, par découverte, des souvenirs ou des phrases ou des faits qui d'un seul coup se mettent côte à côte alors que 3 heures avant, il n'y était pas. Donc j'ai l'impression que je suis plus proche d'une action qui construirait une langue en utilisant cette forme-là. Mais évidemment, d'un point de vue très matériel, on ne peut pas imaginer chaque jour un livre de cette forme-là. On est un peu tenu par l'objet livre qui est de lire une page après l'autre.
C'est cette idée de la trace du pli qui reste sur le papier.
Absolument, oui. Oui. Ça forme un réseau, ça forme des lignes, ça forme tout un cheminement, quoi, qui peut être labyrinthique ou plus classique, mais en tout cas, oui, ça forme trace, de même que l'archive laisse trace aussi, quoi, et l'écriture.
Et est-ce que la typographie vient vous aider? Est-ce que c'est un levier intéressant pour déployer en fait ce que vous décrivez là dans votre écriture d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça peut venir aussi orienter la lecture différemment?
Oui, parce que c'est dès qu'on est sur la page, on est vraiment sur une... Enfin, c'est une page blanche, on est sur une scène, quoi. On est dans un espace qu'il nous faut habiter avec la typo, la police, la ponctuation, les blancs, enfin tout ça est vertigineux en fait. C'est pas uniquement poser des mots qui auraient du sens, ce qui est bien sûr, on va dire, la base bien sûr, mais on se rend bien compte, ben là vous ne l'avez pas, mais dans Ruines par exemple, qui évoque la vie d'Unika Zurn, la plupart de mes mots sont recouverts de noir, mais c'est pas pour un esthétisme, c'est parce que ça provoque une sensation dans le corps. Quand notre œil bute sur un bandeau noir, alors qu'on sait qu'il y a des mots en dessous, évidemment, ça déclenche quelque chose dans l'esprit. Donc tous ces matériaux-là, toute la façon dont les lettres, dont le mot peut être envisagé sur la page, tout ça est signifiant. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Tout dans tous mes livres, hein, vraiment, c'est... Il n'y en a pas un qui... Peut-être plus si ceux qui sont nés des témoignages directs avec les femmes, les rouges putes, par exemple, ça, ou les alouettes, là, il y a très peu de... Il n'y a même pas de jeu dans ces domaines-là. Mais tous les autres, il y a forcément un travail sur... sur la place du mot et donc du sens sur la page, parce que j'ai toujours en tête la façon dont l'œil, la rétine, va s'accrocher à la phrase et comment ça peut susciter une réaction physique. En fait, ça m'intéresse beaucoup. J'ai écrit un livre sur Francis Bacon, et Bacon, on le qualifie de peintre de la sensation. Je veux dire, je suis sûre qu'on peut arriver, je le sais d'ailleurs, dans l'écriture, à une écriture de la sensation. C'est-à-dire que vraiment, le caractère d'imprimerie, enfin, l'encre, elle peut provoquer une sensation physique, une émotion, si le mot il est placé à droite, à gauche, au milieu, en haut. Enfin voilà, c'est vraiment... Je travaille avec ça, en tout cas.
Et on retrouve ça dans les archives, non pas de manière forcément délibérée, mais...
Oui, c'est aussi... voilà. Oui, c'est... Quand on consulte les archives, on se rend bien compte, j'allais dire surtout, mais en fait non, au même niveau. Moi, j'ai commencé avec beaucoup d'archives du XVIe siècle, donc écrites à la main, qu'il fallait déchiffrer. Voilà, il y a le fait de déchiffrer aussi, ça permet une temporalité que j'aime. On peut prendre le temps, vraiment, c'est comme percer un mystère. Ça m'intéresse aussi, ça, de se dire, il y a, chaque mot peut soulever un mystère, peut nous emmener quelque part. Et puis la matérialité, oui, alors de l'archive, que je trouve d'une sensualité exceptionnelle, hein, la ficelle, enfin tout, hein. La ficelle, le carton, l'encre passée, et même pour les documents très contemporains, les notes manuscrites qui peuvent intervenir sur, sur un papier imprimé, les coups de stabilo, tout ça, ce sont des indices supplémentaires, en fait, pour nous emporter vers une intimité, je trouve, avec le sujet qui est sur la page.
Et pourquoi la typographie n'était pas... C'est pas qu'elle n'était pas pertinente, mais ne vous a pas intéressé peut-être au même niveau pour les deux ouvrages que vous avez nommés, Rouge Pute et les Alouettes. Est-ce que l'intimité là, ou est-ce que le témoignage des femmes que vous avez rencontrées était déjà tellement fort? Est-ce qu'il y a eu. Il n'y a peut-être pas de raison d'ailleurs.
Je crois, si j'y réfléchis avec vous, je pense que mon but là, mon espoir, c'était de pouvoir transcrire ce qu'elle me disait. C'était ça mon unique préoccupation. Donc je n'avais rien d'autre à réfléchir que ça. Et comme c'était un travail très nouveau pour moi et que je n'ai jamais renouvelé, ces deux ouvrages-là, issus d'entretiens comme ça, restent uniques dans ce que j'ai pu écrire. Toutes mes forces étaient concentrées sur ce résultat, écrire leurs mots de la façon la plus précise et percutante, on va dire, possible, de façon à ce qu'elles soient fières, satisfaite et qu'on puisse transmettre ce travail commun. Voilà. Donc tout le reste n'entrait pas dans la composition des recueils.
C'est vrai qu'à la lecture de Rouge Pute, j'ai pas eu l'occasion de lire Les Alouettes. C'est frappant à quel point, enfin en tout cas c'est une interrogation qu'on a eue, mais comment vous avez réussi à construire ces voix, parce qu'on est à la fois entre le jeu intime et en même temps une sorte de voix collective mais qui n'efface pas l'individualité. Et on s'est demandé quelle avait été la place de votre voix aussi dans ce travail, parce qu'en termes d'articulation, ça a dû être quelque chose de sensible à mettre en place particulièrement.
Alors ma place, c'était vraiment, j'étais celle qui écoute. Ces femmes-là, elles ne sont guère écoutées, ou quand elles sont écoutées, elles ne sont guère crues. Moi j'avais tout de suite cette identité de poète, ce qui est quand même très important, et de celle qui allait écouter et croire. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans notre relation avec ces femmes par rapport à ce postulat de départ. Ensuite, pour parvenir à vraiment rendre compte de leur confidence. Donc c'est un travail qui s'est fait vite, de façon très dense, sur 2 mois. 2 mois d'entretien et d'écriture qui allaient ensemble. Donc j'écrivais chaque soir en revenant des entretiens. Parce que j'avais encore très présente, leurs attitudes pendant l'entretien. C'était des entretiens individuels, donc. Leur attitude corporelle, les regards ou non-regards que nous avions échangés, leur silence, et tout ça était matière à entrer dans ma poésie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas uniquement leurs mots, mais il y avait tout notre environnement et toute la... En particulier, oui, tout ce qui se dégageait de leur corps pendant nos entretiens. C'est pour ça que j'écrivais chaque soir... de façon à avoir ça vraiment en mémoire. J'aurais pas pu écrire ce recueil après les 2 mois d'entretien. Enfin, j'aurais peut-être pu, mais ça aurait été très différent. Parce que là, vraiment, nous partagions une telle émotion pendant ces heures de parole qu'il fallait que je puisse l'intégrer dans mon écriture tout de suite. Voilà, tant qu'elle était vraiment très, très présente encore en moi. Après, ma place, c'est la place de la poète, en fait. C'est vraiment parvenir à, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce qu'elle me disait, parvenir à extraire le mot le plus puissant et puis les ajuster les uns avec les autres pour pouvoir créer ces poèmes.
Est-ce qu'on peut dire que ces deux recueils font archive à leur tour ?
Oui, moi je pense, de même que le prénom a été modifié, oui, je pense que ça fait archive et je le vois. Puisque Rougepute, ça fait quelques années maintenant qu'il est paru et je vois bien, oui, qu'il sert d'archive. Oui. Donc c'est. Enfin, pour nous, je dis, pour les femmes et moi qui avons. Construit ce recueil, c'est quelque chose de vraiment très très important, ça. Oui. Parfois, une écriture plus documentaire peut être plus vite reléguée, en fait. Là, la forme poétique a beaucoup surprise et j'ai même eu quelques réflexions assez brutal, parce que j'utilisais de la poésie pour rendre compte de ces sujets-là. Mais cependant, justement parce que c'est de la poésie et que ça a pu comme ça étonner, alors les textes ne sont pas oubliés, en fait. Et ils peuvent vraiment continuer de vivre dans leur universalité, c'est ça qui est vraiment important, je trouve. Avec la poésie, c'est ce qu'on atteint, j'ai l'impression, et ce qui permet que ces recueils-là ils puissent être entendus de toutes et tous.
C'est une parole dont les femmes que vous avez interrogées ont pu s'emparer peut-être aussi, ou est-ce qu'il y a eu des retours?
Alors déjà, oui, c'est elles ont vraiment, enfin, ce recueil, c'est pour Rougepute, mais pour les Alouettes aussi, c'est vraiment une étape essentielle de leur reconstruction. C'est vraiment des livres dont elles sont très fières. Par exemple, pour Rougepute, il y a deux de ces femmes qui maintenant font partie d'une association d'aide aux victimes de violences. Et le chemin n'était pas du tout aussi clair quand je les ai rencontrées la première fois. On était très loin de ça, mais simplement, il y a maintenant une sorte de... Voilà, elles ont été entendues. Elles ont été entendues et pendant les deux mois que nous avons passés ensemble, elles me disaient si ça peut en sauver une. Je ne sais pas si ça a sauvé des femmes, j'aimerais le croire. Mais en tout cas, maintenant, à certaines lectures, il y a des femmes victimes de violences qui sont encore dans ce processus meurtrier, qui ont le livre et qui viennent me voir après. Avant, je n'avais dans le public, d'abord, quasiment que des femmes, maintenant c'est mixte, et puis beaucoup de femmes d'après, je veux dire, celles qui étaient déjà sorties de cet enfer. Maintenant, ce livre, il est donné, transmis, voilà, partagé aussi avec des femmes qui sont encore dans cet enfer pour leur montrer, voilà, d'abord qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'elles ne sont pas coupables et qu'elles peuvent fuir, qu'elles peuvent changer quelque chose, que quelque chose peut advenir, que ce n'est pas une fatalité. Voilà. Donc, je ne sais plus trop où était le début de la question.
Non, mais c'est exactement ça. C'est la force de l'écriture oui. aussi. Et puis, vous y avez répondu par rapport à une poésie peut-être documentaire, je ne sais pas, dont vous voulez vous éloigner peut-être, ou au contraire, que vous revisitez. Je ne sais pas comment vous...
Je ne sais pas.
Il n'y a pas besoin de définir votre oui. poésie pour autant. Hein. Je ne cherche pas à le faire.
Oui, oui.
Mais c'est vous qui avez... qui avait prononcé ce mot documentaire.
En tout cas,
on n'avait pas encore prononcé.
Oui, pour ces deux recueils-là, et pour le prénom a été modifié aussi, effectivement. Parce que parfois, il faut donner des définitions. Voilà, mais enfin, évidemment, vous vous en doutez bien, quand vous commencez un travail de création, quel qu'il soit, je me dis jamais je suis dans cette école ou dans cette catégorie. Non.
Non, mais on a l'impression, à vous écouter, que vous avez cherché à transposer au plus juste les mots de ces femmes et que finalement, vous avez aussi recréé et vous avez véritablement produit un recueil de poésie à partir de là.
C'est tout à fait ça.
Presque, voilà, oui. C'est saisissant aussi pour ça, en
oui.
fait.
Oui, oui. Parce que ce sont vraiment leurs mots, c'est pour ça, parce qu'il n'y a rien qui vient d'ailleurs, parce que c'est vraiment leurs paroles qu'on entend dans ces recueils.
C'est un recueil qui refait réseau, du coup, comme vous le décrivez par la suite.
Oui, ça c'est beau, ça c'est vraiment important. Ça c'est en plus imaginer la fierté de ces femmes avec lesquelles je suis bien sûr toujours en contact, hein, de savoir que cette phrase que je vous ai citée, si ça peut en sauver une, voilà, de savoir que leur courage peut être comme ça transmis de l'une à l'autre. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis aussi, avec ces recueils, il y a cette autre grande chance de pouvoir aller dans les établissements scolaires, les lycées particulièrement, et puis d'aborder avec les lycéens les violences faites aux femmes. Et grâce à ces textes qui, alors là, c'est par leur brièveté, sont bien accueillis, pouvoir discuter et pouvoir vraiment aussi apporter des éléments de réponse à leurs questionnements, apporter des éléments de réalité dans un univers où ils sont parfois loin de la réalité, et puis donc de construire ensemble, d'essayer de construire ensemble un présent qui serait plus juste, quoi, et qui serait, on le souhaite, débarrassé de ces violences, bien sûr.
Et tout ça par le biais de la poésie, oui. Et donc la force de la poésie, de l'écriture, alors même qu'on se plaint de sa place un peu minorée aujourd'hui. Donc
c'est, mais elle est très, aussi... oui, mais elle est très très présente, je trouve. Enfin, je trouve qu'elle, oui, est vraiment, oui, elle a une force.
Oui, ouais. Ce que vous dites par rapport à l'impact que ça a sur les lycéens, oui, c'est...
C'est encourageant.
Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait.
Et vous terminez le recueil Rouge Pute sur le... Alors, je ne sais pas si on peut parler de chapitre ou l'appendice, la couronne. Et c'est vrai que le ton est très différent du reste du recueil. Ça nous a beaucoup marqué. Et on se demandait pourquoi vous avez fait ce choix de l'intégrer à la fin pour terminer sur quelque chose qui est à la fois tourné vers l'avenir et en même temps très, très intense.
Donc, pour Rouge Pute, j'ai travaillé avec 9 femmes. Et dans la première partie du recueil, ce sont vraiment leurs voix qui sont croisées. C'est tous les témoignages qui prennent forme dans un texte, puis dans un autre. Voilà. Cette jeune femme qui m'a parlé du viol avec torture qu'elle avait subi, c'était si différent. On n'était pas du tout dans le même contexte de violence conjugale. Donc c'était vraiment un cas différent de ce que je pouvais recevoir des autres femmes, que je ne pouvais pas l'intégrer en fait à Rouge Pute. Enfin, à la première partie du recueil, c'était uniquement sa voix là. Il n'y avait pas... elle ne pouvait pas se tisser avec les autres voix. C'est pour ça qu'elle a une partie qui lui est dédiée. Voilà, c'est tout simplement ça.
On a réfléchi aussi ensemble au rôle du découpage, du montage, au rôle des autres arts aussi dans votre poésie. Mais je me demandais si cette présentation sur la couverture avec des ciseaux et des pointillés, donc je parle de la couverture des mains d'Anna, avait été spécifique à votre texte tellement. Voilà, et en fait, mais je trouve que ça tombe très bien et on en parlait. Voilà, on a eu l'impression aussi que c'était un fil, un thème dans votre poésie qu'on retrouvait, ce découpage, les ciseaux, cette vision.
C'est vrai que moi, avant de savoir écrire, je découpais, enfant, petite. J'ai écrit assez tôt, mais je racontais des histoires avec des découpages. Donc ça fait vraiment partie de mon expression. Voilà. Et j'ai continué, je fais toujours des découpages, mais maintenant en plus je sais écrire. Mais oui, c'était une manière de parler. Donc vraiment, c'est à l'origine de ma parole, en fait, le découpage. C'est très étonnant. Ouais.
C'est pas étonnant, enfin, on le sent.
Comme dans Coup de ciseau.
Ben oui, c'est mon premier livre, hein, Coup de ciseau, donc tout y est.
Tout est dit.
Tout est dit. Okay. Non, c'est vrai que c'est marquant en fait la façon dont Le découpage induit immédiatement une couleur aussi et une composition presque musicale pour ce que ce personnage justement qui est très mystérieux est déjà découpé comme pré-découpé, recousu et ensuite réassemblé à loisir. Et c'est vraiment une pratique qui est presque métapoétique à l'intérieur de cet ouvrage.
Oui. Et c'est... Enfin, j'y pense jamais, non pas à coup de ciseaux et oui merci, mais en tout cas à cette première écriture. Là, comme il y a Anna, alors on m'invite plus à réfléchir sur le découpage. Et effectivement, c'est vrai que j'ai relié avec ma première pratique d'enfant avant l'écriture, quoi. Donc oui, ça serait ma métaformation.
Et peut-être profiter qu'on a abordé coup de ciseau pour vous poser quelques questions. On s'était interrogé sur l'articulation entre texte et image. Comment vous l'aviez pensé ? Comment vous avez travaillé en duo sur ce livre ?
Alors le texte était écrit. Et c'était une amitié donc avec Stéphanie Butet. Je lui ai confié le texte et elle a créé ce personnage. Qui est inspiré tout au début d'une sculpture de Dorothea Tanning, non pas pour la petite oui merci, mais pour l'objet qu'elle. Voilà, ça c'est une sculpture de Dorothea Tanning, et puis elle a celle-ci. Voilà. Elle a composé ces images, et puis on a proposé l'ouvrage double à l'éditeur qui l'a donc accepté. C'était une première expérience en duo. J'en ai pas eu après pendant longtemps, en fait. Et puis maintenant, j'ai beaucoup de travaux mixtes avec d'autres formes d'art, d'expression, mais qui ne se retrouvent pas forcément en livre, hein, qui peuvent donner des duos avec le musicien dont je parlais tout à l'heure ou des expositions avec un photographe. Enfin, voilà, donc c'est des travaux qui sortent du livre, en fait. Pas de livres, je réfléchis, j'ai pas d'autres livres avec. Ah si, j'ai Les Tondus, Jacques Coda, qui est un plasticien aussi, a produit des dessins qui sont à l'intérieur du livre, oui.
Et ces collaborations ont une influence après sur votre écriture, que ce soit par la musique, ou est-ce qu'en fait c'est vraiment une collaboration, c'est-à-dire un travail de complémentarité, j'allais dire, qui se fait, qui évolue, mais qui vous laisse dans votre écriture aussi.
Là, ce sont comme c'était ponctuel sur un ouvrage. Ça n'a pas été plus loin. Mais après, dans mes duos, en fait, et à partir du moment où je dis duo, je pense qu'on comprend que c'est du long terme. Là, oui, il y a vraiment un enrichissement de nos pratiques. C'est sûr que depuis que j'ai travaillé pour la première fois avec Ronan Courty, qui improvise sur sa contrebasse, donc il a tout son corps qui est vraiment en percussion, hein, avec son instrument. Donc il crée un langage qui est tout à fait exceptionnel et que j'entends très bien. Donc quand on travaille maintenant ensemble, comme pour notre oratorio, où là on avance ensemble mots et musique, il n'y a rien d'écrit en préalable. Voilà, on travaille vraiment la matière de notre sujet ensemble. Là, oui, ça modifie considérablement mon écriture. Et de même avec Mathieu Farcy, le photographe avec lequel j'ai un autre duo qui s'appelle Pli, d'ailleurs. Là, quand on travaille aussi, on avance ensemble sur un sujet qu'on détermine, qui nous plaît, qui nous habite, dont on a envie de déplier tous les mystères. Là aussi, oui, ça fait vraiment, c'est un enrichissement exceptionnel. Pendant longtemps, j'ai été totalement seule face à mon écriture, donc c'est vraiment des moments. C'est plus que des moments, d'ailleurs. Hein. Ce sont des partages qui sont passionnants. Ouais. Ouais.
Est-ce que ça ouvre d'autres pistes ou est-ce que ça vous donne d'autres libertés? Je pense au sous-titre toujours des mains d'Anna, la liberté limitée pour Anna Hoche. Est-ce que c'est la même chose pour...
Moi, j'ai aucune limite. Et aussi parce que je suis dans des maisons de petite taille. Ce qui fait que j'ai aucune limite. Je fais exactement ce qui me plaît. Si un éditeur ne le prend pas, un autre le prendra. Si un autre ne le prend pas, j'attendrai 10 ans. Des livres que vous avez là sur la table ont attendu 10 ans. Je ne suis pas pressée, mais je fais ce qui me plaît. Je ne peux pas m'imaginer entreprendre un travail dont je devrais amputer des parties pour une raison, disons grossièrement, de marketing. Voilà, c'est inimaginable. Donc, je n'ai pas du tout de limite, sachant quand même que mon matériau de départ, c'est l'écriture. Voilà. Après, comment elle peut se déployer et quelle forme elle peut prendre, bon, bah, ça, c'est une invention à chaque fois. Ouais.
On a trouvé que dans les différents ouvrages qu'on a lus de vous, il y avait vraiment un côté très interartial, intermédial. On retrouve l'influence d'autres... Enfin, le rapport à l'image et à la poésie, il est exploité énormément, évidemment, mais on voit la présence du cinéma, d'autres arts plastiques. C'est quelque chose que vous avez travaillé dans l'écriture dès le début ?
En fait, mes influences, elles sont d'abord plus plastiques, même si je lis beaucoup, et depuis l'enfance. Mais le premier livre très important pour moi qui a été écrit, ça doit être mon deuxième paru, c'est Le Plancher, qui s'attache à écrire la vie de Jeannot, enfin maintenant on sait qu'il s'appelle Jean Crampil, qui a gravé un plancher de bois. Vous connaissez le plancher de Jeannot ? Je vous invite à regarder cette œuvre. Voilà, il est plus à Sainte-Anne, mais voilà. Donc ça, ça a été ma première grande rencontre. Et donc Jeannot est, pour vous résumer l'histoire, ça se passe dans les années 70, c'est une ferme. Il est paysan dans une ferme du Béarn, d'une famille ultra toxique. Et après bien des événements pénibles, sa mère est enterrée sous un plancher. Jeannot va se coucher sur ce plancher, le plancher de la ferme, et il va y graver un texte psychotique pendant 3 mois. Et il mourra de faim sur ce plancher, qui mesure 15 mètres carrés, qui est une œuvre absolument éblouissante que j'ai rencontrée moi à la Bibliothèque nationale de France où elle était exposée. Je connaissais rien de cette histoire, donc j'ai vraiment rencontré aussi, parce qu'on était dans une bibliothèque, une œuvre littéraire, mais sur un plancher. Voilà. Et ça a été vraiment pour moi l'événement sans doute le plus important de mon écriture, parce que l'écriture là, le corps est inscrit dans chaque lettre. C'est très dur, un plancher de chêne, et il travaillait avec une gouge, un marteau. Donc c'est vraiment le point de départ de tout ce que je peux écrire. D'abord parce qu'on peut y laisser sa vie. On prend vraiment un risque quand on écrit, c'est pas anodin. Ensuite parce que tout le corps est emmené dans cette pratique-là. Moi, je donne très très peu d'ateliers d'écriture, je suis pas douée pour ça. Mais quand les personnes qui sont là bloquent, en fait, je dis, il y a d'abord un geste. Simplement faire le geste d'écrire. Ce geste-là, il dit quelque chose déjà. Il emmène une énergie, il emmène une sensation. Donc voilà, mes premières influences, ma première influence vraiment qui a eu un impact décisif sur mon écriture, c'est Jeannot et son plancher. Et ensuite, tout ce qui est art plastique, mais aussi... par exemple, je ne sais pas, l'écriture de Pina Bausch, les chorégraphies de Pina Bausch. Pour moi, ça, c'est une écriture exceptionnelle. C'est ça qui me nourrit le plus. Sont vraiment ces rencontres-là qui viennent le plus intégrer mes recherches sur l'écriture qu'une autre écriture, en fait. Même si, évidemment, je ne pourrais pas passer une semaine sans lire un livre et que je suis souvent... ébloui par ce que je peux lire et que j'apprends énormément en lisant les autres poètes, en lisant des essais, enfin, c'est très nourrissant, mais ça se passe à un niveau qui n'est pas intellectuel, je dirais. Quand je vois une chorégraphie, quand je vois une œuvre, quand je rencontre une sculpture, là il se passe quelque chose d'autre, et ça fait vraiment bouger ma façon d'écrire, ou une architecture.
Oui, donc ça n'a pas besoin d'être un mouvement pour autant.
Non, mais il y a eu un mouvement quand... enfin, bâtir, c'est...
Tout à fait. Et puis l'émotion aussi que ça vous procure.
Ah oui.
Et là, il y a un mouvement.
Oui.
C'était vraiment la question du motif du tissu. De cette membrane, en fait, faite de corps, faite de chair, où le végétal s'hybride avec l'animal, l'humain, le papier, les mots. Ça a vraiment... J'ai l'impression que ça a traversé une grande partie de votre création, et on se demandait quel était ce rapport, justement, à la membrane, au tissu, avec l'idée de suturer, recoudre, découdre aussi. Vous allez découper, déchirer.
Je ne sais pas s'il n'y a pas peut-être sans doute une explication psychanalytique dans laquelle je ne vais pas m'aventurer.
Non, c'est pas le but.
Mais le tissu en soi, l'objet même du tissu, hein, là où il est le plus présent, c'est dans les trois maisons, enfin dans le jeune, l'étang, voilà. Je dirais que c'est presque comme l'archive au niveau de la sensation presque érotique avec le tissu. Hein. Ces mouvements, ces déchirures. Il y a vraiment quelque chose dans la matière même du tissu qui m'enchante. Ce geste de l'aiguille, bien entendu, de pouvoir, je dirais, consoler en mettant bord à bord des choses déchirées, puis en les rejoignant. Parfois dans l'écriture, c'est ce que je tente de faire, après tout, de ramener ce qui a été déchiré, d'en faire une unité que je puisse présenter à la lectrice ou au lecteur. Donc il y a quelque chose de ça, de la déchirure que je tenterai de consoler. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui me vient, alors je vais le garder. Bon, voilà. Ensuite, c'est ce qui nous protège. Sans tissu, nous irions nus. C'est pas si simple d'aller nu. C'est quand même un défi. L'écriture, elle va relativement nue. Je trouve qu'elle s'avance vraiment de façon courageuse dans le monde. À partir de ce moment-là, elle devient, si je la considère comme nue, je dirais que c'est la syntaxe qui fait tissu. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on peut agencer entre le mot et la pointe du stylo. J'écris beaucoup à la main, entre le mot et la pointe du stylo, qui va rebâtir cette enveloppe qui va ensuite être livre. Quoi. Voilà ce qui me vient sur le tissu.
En tout cas, sur la question de la membrane comme interface aussi entre le végétal, l'animal, l'humain, on a eu un vrai coup de cœur pour la forêt.
La bête, enfin, la bête de forêt.
Oui, c'est ça. Et la représentation de la forêt que vous y faites par rapport à d'autres moments où la terre est gravats et poids. Et là, on a eu l'impression d'une terre particulièrement fertile, réjouissante. Et du coup, cette question du rapport à la terre comme membrane, on l'avait interrogé un petit peu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez problématisé dans plusieurs ouvrages différemment.
Uniquement deux. Celui-ci et puis La fille du chien. Et qui sont mes seuls livres qui s'écrivent à l'extérieur, en fait. Tous mes autres livres sont dans des environnements fermés. Alors, c'est souvent la maison, le mur. Et si c'est dehors, comme l'apparition, sont les montagnes qui font mur autour. Donc, il n'y a pas un seul de mes livres qui échappe à ces cloisons, vraiment, à ces structures extrêmement fermées, dont il faudrait parvenir, avec l'écriture, si possible, à ouvrir une issue. Et deux livres se passe dehors en ayant pleinement conscience du dehors et de la terre et de l'animal, c'est la bête et puis la fille du chien. Voilà, ce sont deux moments très particuliers de ma vie aussi, en fait. C'est des livres où je suis plus avec moi que dans le reste de mon écriture, où je suis vraiment toujours avec l'autre, avec les autres. Là, c'est plus des aspirations très intimes. C'est pour ça aussi qu'il y en a très peu, parce que c'est beaucoup plus difficile, en fait, de partager l'intime comme ça.
Ça vient creuser dans vos propres archives, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Oui. Ça amène toujours une réflexion sur l'écriture, mais là, ça passe par le corps, le corps de la bête, le corps de la forêt. Et dans La fille du chien, c'est aussi, il y aurait aussi en second plan une réflexion sur l'écriture, mais ça passe par le chien, par l'animal et la terre, oui.
C'est vrai que c'est presque comme si la nature faisait complètement écho. Enfin, en tout cas, je n'ai pas lu La fille du chien, mais pour la bête, son corps de forêt, c'est, on a l'impression que tout résonne et tout vibre, que ce soit dans les sonorités que vous utilisez, dans les jeux que vous faites avec la mise en page, la typographie, l'italique, ce tout angle, c'est aussi tout résonne.
Oui, 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 c'était l'état dans lequel je me trouvais pendant l'écriture de ce livre. Ouais. Ouais. Tout résonnait. C'est pas toujours que d'un seul coup tout résonne. C'est presque des moments miraculeux. Il y a beaucoup de moments où tout est étouffé ou encombré, puis des moments où tout est lumineux, de science comme ça, où on a l'impression d'avoir une autre compréhension en fait de notre environnement, quoi. Mais c'est pas toujours.
Enfin, lors d'une rencontre la semaine dernière, c'est dans un poème, je crois, que vous avez dit « deux mots sont un miracle » ou c'est
oui. Oui.
Et c'est une très belle expression aussi pour dire cette espèce d'épiphanie.
Oui, c'est ça. Oui. Ouais.
Donc, c'est ça que vous cherchez, les deux mots.
Oui, c'est un sacré travail, tout à fait passionnant. Hein. Mais j'imagine que tous les écrivains, c'est la même chose. Mais dans tous les brouillons, un mot est barré, remplacé par un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est pas du tout évident de poser deux mots l'un à côté de l'autre, quoi. Non.
Et comment vous gardez la trace de ces mots que vous effacez dans votre création ?
Bon, comme je travaille beaucoup manuscrits, enfin dans des cahiers, donc il reste des traces sur papier. Et puis sinon, je garde quelques années mes différentes versions de manuscrits. Après, je les jette. Mais je les garde parce que souvent, d'un livre à l'autre, alors tels qu'ils paraissent, ce n'est pas l'ordre dans lequel ils ont été écrits, puisque certains mettent des années à rencontrer une maison d'édition. Mais en tout cas, dans ma tête, je sais dans quel ordre ils sont. Et souvent, d'un livre à l'autre, presque toujours, en fait, je répète une phrase. C'est-à-dire, je prends un morceau d'un des livres que je viens de terminer et qui va venir dans le livre suivant. Il y a comme ça, une intimité, une porosité entre tous mes livres, voilà, que je poursuis. Quelque chose qui se poursuit vraiment. Et donc, c'est pour ça que je garde un temps mes versions de manuscrits, parce que parfois, cette phrase qui va aller dans le livre suivant, je ne l'ai pas gardée dans le manuscrit, où elle est un tout petit peu corrigée, mais c'est la phrase du début dont j'ai besoin pour aller vers l'autre livre. Voilà. C'est un truc un peu bizarre.
Non, mais c'est ce qu'on avait senti à la lecture. On s'était fait exactement cette réflexion.
Ah oui.
On s'était dit, mais il y a des connexions, il y a des sons qui, voilà, qui résonnent justement et qui font qui
une continuité.
Une continuité. Ouais.
Vous cousez, en fait.
Ça commence à s'entendre. Alors.
Oui, oui, oui. Enfin, voilà, entendu.
En tout cas, il y a un rythme qui se dégage, qui me donne l'impression de familiarité, en fait, en vous lisant d'un
moment. Oui, et qui n'est pas simplement thématique.
Oui.
C'est bien de ça dont on parle.
Oui,
oui, oui. Non, j'avais repris cette phrase. Toujours, c'est les mains d'Anna, ça m'a bien plu. J'ai reçu comme don celui de pouvoir observer, de vivre, puis de ranger. En lisant cette phrase-là dans le recueil, je me suis dit que c'était quand même aussi ce que vous faisiez.
Oui, oui, c'est...
Vous étiez sans doute...
Mais souvent, en plus, quand on passe beaucoup de mois ou d'années avec le sujet du livre, il y a vraiment une intimité qui se crée, qui est réelle. Et quand on doit extraire des citations, des choses comme ça, et bien évidemment, on va là où on se sent en parfaite harmonie. Et cette phrase-là qu'elle dit, oui, je pourrais la dire, bien sûr.
Oui, il y a une familiarité qui se... Oui. Connexion.
J'ai une curiosité un petit peu plus personnelle. Mmh. En lisant Tête blonde, j'ai été très remuée. Est-ce que c'est aussi du matériel d'archives que vous avez utilisé pour Tête blonde ou c'est plus...
Par exemple, Putain de ta mère, là, celle qui ouvre le recueil, c'est vraiment d'avoir visionné des concours de Minimis. J'étais très choquée, en fait. Donc là, oui, c'est de l'archive, par exemple. Oui, oui, donc il y en a d'autres avec moins d'archives, mais certaines, oui, oui, absolument. Ou les survivalistes, je pense que c'est aussi dans ce recueil-là. Oui, bon, pareil, là, j'ai pas mal cherché la façon dont ils s'organisaient pour écrire cette nouvelle-là. Donc oui, il y a aussi de l'archive. Pas que, mais il y en a.
Ce qui frappe aussi à la lecture, et c'est valable dans d'autres de vos œuvres, j'ai l'impression, c'est que vous transcrivez les images, vous retranscrivez l'archive, mais aussi les commentaires sur l'archive. Et ça a tendance à tordre le discours de manière... qui remet vraiment tout en perspective et qui oblige à prendre une distance.
Oui, parce qu'une archive, moi-même, je ne l'accepte pas telle qu'elle. Le même événement... Par exemple, dont je trouverais une archive, disons, à la préfecture de police, à la Bibliothèque nationale et dans un autre centre de documentation, elle va être vue de façon totalement différente. Je vais entendre autant de voix qu'il y a de versions sur le même fait. Donc c'est très important, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps, en fait, de pouvoir multiplier les versions, multiplier les archives, et de créer soi-même sa propre voix à travers tous ces matériaux. Mais on ne peut pas prendre une archive ou un journal, par exemple, les archives de journaux. On ne peut pas prendre ça, simplement, et puis dire « voilà l'archive ». Ça, c'est absolument impossible. Donc, il faut vraiment, pour une même date et un même événement, essayer d'entendre le maximum de voix. C'est presque un peu comme Rouge Pute. Il faut entendre le maximum de voix pour réussir à trouver les mots dont on a l'impression qu'ils sont le plus proches d'une vérité. C'est un peu dangereux hein, d'oser dire des mots comme vérité, etc. Mais en tout cas, essayez de s'en approcher, quoi. Mais en tout cas, pas dire, comme vous venez de l'exprimer, voilà l'archive, donc voilà la vérité, voilà la version. Non, ça, c'est pas juste, ça.
On s'était interrogé sur la place justement de cette voix poétique. Est-ce qu'elle était plutôt du côté de la voix off ou de la voice-over, justement
Elle est là en permanence. Je vous parle, mais en même temps, je pourrais vous parler différemment et vous parler avec des phrases dont la syntaxe ne serait pas juste, mais qui seraient de la poésie. Je suis toujours en train de penser... En poésie, j'ai pas l'impression que ça soit, par exemple, dans mes premiers romans, Le Plancher ou Les Trois Maisons, et c'était mes premiers. La poésie, la forme poétique, elle est tout de suite intervenue dans ma prose. Je vois pas tellement de différence. C'est une question de respiration. Parfois j'ai un peu tendance à dire que quand il faut aller à la ligne comme ça, quand la ligne se brise, c'est qu'il faut retourner près du mur, qu'il faut aller s'appuyer, qu'il faut reprendre contact avec une matière, et ce serait le bord de la page, par exemple. Donc tout est c'est vraiment mon point de vue hein. tout est sur une partition d'émotions, et donc la poésie elle est elle m'habite entièrement. C'est vraiment le grand océan dans lequel je nage. Tout tangue. On dit, j'ai rencontré l'amour et soudain ne plus savoir l'amour ou la rencontre. Tout tangue. Les mots entre nos deux visages du poignant de ma langue. Traduire ton corps. Nos corps rapides,
nos corps lents, l'amour nu, le monde des faits. Grimpe-moi, ton corps d'étoile, épaule bleue de ciel, derrière ton dos, montagne, oiseau. La forêt passe entre mes jambes, l'épi de ton sexe, tes yeux scarabées, roule sur moi les crêtes de ta hanche. L'odeur des mots savent-ils les fentes de tes cuisses, la mousse de tes couilles, le sel de nos peaux? Flairer ma piste au long des lignes, museau échine, odeur de jeune veau étable et lait. Une fois l'amour à blanc, le temps d'écrire. Une fois l'amour chargé, le temps de jouir. Lorsque tu embrasses mes mains tachées d'encre, lorsque tu embrasses mes yeux d'encre, lorsque mes seins tachés d'encre, tu embrasses ma bouche tachée, je mange les mots sur ta bouche, je mange l'amour, d'une nuit à l'autre je parle aux instants, la déclaration balbutiante sur la lèvre inférieure. Le ciel au couchant son pommelé de gris, je cherche ta bouche atteindre tes lèvres. La pourpre des rubans à tes chevilles, ton poignet, jouer, déjouer, dénouer, tanguer. Frisson de poésie, effleuré, frôlement, feulement, follement, défloré, effeuillé, effloré. Mes seins de miel quand tu les lèches, éperdument, je brûle. Maintenant mes seins, mouillés de toi, le soleil se lève. Je passe ma main sur ton visage, frappe mes yeux de ma paume, enfoncer les mots, les clouer au cerveau s'ils s'envolaient sous la poussée de terrain, l'amnésie. Coupée en deux, l'une j'écris, l'une je jouis, l'impossible, alors revendiquer deux fois l'amour, superposé. De tous les yeux de mon corps, toutes les mains de mon corps, les langues de mon corps, tanguées, toutes. Sans changer de place, tous les paysages, corps entier, paysage.
Nous remercions Perrine Lequérec et Magali Brasil de la Maison de la Poésie de Nantes pour l'organisation de cette rencontre et cette conversation intimiste.
Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt!